Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Dès son premier discours, Donald Trump a rendu un hommage appuyé à l'un de ses plus fidèles soutiens.
We have a new star. A star is born. Elon. He's a special guy. He's a super genius.
Un super génie, faiseur de roi. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, patron de X, fondateur de SpaceX et de Tesla, roule pour Donald Trump depuis des mois, en relayant une multitude de messages et en affichant leur complicité.
We had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight.
Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Elon Musk aurait injecté près de 120 millions de dollars dans la campagne, organisant même une loterie, 1 million par jour, pour inciter les Américains à voter. Les supporters de Trump raffolent du personnage, persuadés qu'il sera de bons conseils pour redresser le pays.
Il faut se débarrasser de toutes les dépenses inutiles. Envoyez Elon Musk, qui est un homme d'affaires lui aussi. Il y aura plus d'argent, pas besoin d'augmenter nos impôts.
Donald Trump va-t-il missionner Elon Musk pour réformer l'appareil d'État américain ? Le milliardaire, aussi fantasque que controversé, semble prêt à se retrousser les manches. Si l'on en croit ce photomontage de lui entrant dans le bureau ovale, un lavabo dans les bras, le même qu'il avait apporté au siège de Twitter, un signe que ça allait déménager, le nouveau patron avait massivement licencié dans la foulée. Alors quel sera le rôle d'Elon Musk dans la future administration Trump ? Intérêt personnel, projet politique, quel but Elon Musk, toujours plus puissant, poursuit-il ? Et si c'était lui le vrai gagnant de la présidentielle américaine ?
Nos trois invités, Gérald Olivier, pour commencer, bonsoir.
Vous êtes bonsoir.
Franco-américain à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Votre dernier essai, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Selon vous, Elon Musk est déjà milliardaire, il n'a pas besoin de Trump pour servir ses intérêts économiques. Son rachat de X et son ralliement à Trump, c'est pour défendre la liberté d'expression, notamment le droit d'émettre des idées conservatrices. À côté de vous, Romain Badouard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication, vous enseignez à l'université Paris-Panthéon-Assas. Votre dernier essai, les nouvelles lois du web, modération et censure au seuil. Vous dites qu'on parle de Musk pour diriger un audit sur l'efficacité de l'État avec l'idée de faire le ménage dans l'administration américaine, histoire de mettre des soutiens de Donald Trump et autant que possible en bonne place. Et Christine Cardellan, bonsoir madame, journaliste économique et essayiste. Votre ouvrage, c'est « Milliardaires plus forts que les États » aux éditions de l'Observatoire. Selon vous, Elon Musk aura un pouvoir d'influence énorme sur Trump, à la manière des oligarques auprès de Poutine. Ce qui intéresse Elon Musk avant tout, selon vous, c'est penser pouvoir manipuler Donald Trump. On va voir comment vous évoluez sur ces questions, mais on commence avec le chiffre du jour.
Oui, après la victoire de Donald Trump, eh bien, l'action du groupe Tesla, donc d'Elon Musk, a bondi de 14,75% à Wall Street, soit l'équivalent de 20 milliards de dollars. En une journée, Elon Musk est redevenu la personne la plus riche au monde avec une fortune évaluée à plus de 284 milliards de dollars. Les marchés financiers ont donc estimé que le retour de Donald Trump allait faciliter en quelque sorte les affaires du milliardaire. Gérald Olivier, justement, Musk, on a l'impression, avait fait un calcul économique aussi en soutenant Trump, et c'est un pari gagnant.
Oui, mais je ne le dirais pas, enfin, c'est un pari gagnant, manifestement, la capitalisation boursière de sa société en a grandement bénéficié. Mais je ne pense pas que ce soit l'essentiel du pari. C'est-à-dire qu'il n'a pas soutenu Trump parce qu'il voulait que les actions de Tesla progressent. Je pense qu'il a deux autres visées derrière. Et je voudrais souligner le contexte de son rappel, de son rapprochement avec Trump. Et je dis bien rapprochement, parce que c'est un rapprochement, en fait, qui est très récent. Musk a commencé à soutenir officiellement la candidature de Donald Trump le jour où il y a eu la tentative d'assassinat, le 13 juillet. Jusqu'alors, il est relativement en dehors de la campagne. Il a laissé connaître certaines de ses opinions conservatrices et il a ouvertement racheté Twitter parce que Twitter avait censuré un certain discours pendant la campagne de 2020, ce qui avait pu avoir une incidence sur le résultat de cette campagne. Après, c'est vrai qu'il a des intérêts économiques. Et Donald Trump est très heureux de l'avoir derrière lui parce que c'est un moyen d'attirer le vote jeune. Mais ce que Musk a senti, c'est qu'il y avait un certain danger aux États-Unis. Un danger parce qu'il y avait une forme de menace. qui ne se laissait plus, je dirais, masquer.
Contre
justement ce que, le fait qu'on ait cherché à assassiner l'un des candidats présidentiels, c'est quand même majeur. Et le fait que les circonstances même de cette tentative d'assassinat laissaient montrer des lacunes gigantesques quant à la sécurité du personnage. Et un certain discours avait incité peut-être à ce type de geste.
Sur les intérêts économiques, tout de même, pour y rester, Christine Kerr-Delan, on peut se dire tout simplement qu'il va chercher chez Trump aussi moins de normes, moins de régulations. C'est aussi ça qu'il espère.
C'était moins d'impôts et moins d'impôts sur les sociétés.
Moins d'impôts, Trump l'a promis. Mais effectivement, moins de régulations, notamment dans les domaines qui l'intéressent, c'est-à-dire la voiture électrique autonome, sur ses fusées. En fait, il a déjà 19 enquêtes contre lui, diligentées par agences...
Elon Musk.
Diligentées par des agences gouvernementales. Donc, il pense qu'avec les démocrates, il n'a pas été très gâté, mais avec les républicains, on va sûrement refermer tous ses dossiers et il aura beaucoup plus de facilité pour développer ses affaires. Et il sait aussi que Trump est très favorable à la tentative de coloniser Mars. C'est sous Trump qu'on a relancé la tentative d'aller sur la Lune avec des humains aux États-Unis. Et Trump croit beaucoup au narratif spatial, il croit beaucoup au fait que pour l'imaginaire américain, ce sont les derniers grands espaces vierges.
La dernière frontière.
Voilà, le cow-boy spatial, c'est quelque chose qui unit, je dirais, Musk et Trump. Et ça fait partie des intérêts, mais c'est surtout la dérégulation.
La dérégulation, il a déjà, Romain Badoir, 15 milliards de contrats avec le gouvernement américain. Ce n'est pas rien. Il travaille avec beaucoup d'agences fédérales, Elon Musk. Donc, quand même, il est déjà très impliqué dans la gestion des affaires du pays économique.
Oui, effectivement, et s'il s'est aussi éloigné du Parti démocrate... Oui.
Dont il était proche à un moment donné.
Il a été proche. C'est parce que le sens de l'histoire va quand même vers plus de régulation des marchés technologiques, particulièrement en Europe, moins aux États-Unis, mais que lui, il espère qu'avec l'action de Donald Trump, les marchés sur lesquels il intervient, la voiture électrique, mais les réseaux sociaux aussi, soient complètement dérégulés pour que ça puisse bénéficier à ses affaires, tout simplement.
Et alors, il se verrait bien, tout simplement, au gouvernement, en tous les cas, avec une mission précise. Alors, vous n'êtes pas d'accord, Christine Kerr-Delan, on va d'abord l'écouter.
So I'd be happy to help improve the, government efficiency, obviously, Department of Government Efficiency, which, I think is sorely needed. We've got a gigantic government bureaucracy. We've got overregulation that slows down new housing starts. We need to let the builders of America build.
C'était à Mar-a-Lago, donc la résidence de Donald Trump. On a d'ailleurs vu le portrait du président Trump derrière. Christine Kerr-Delan, pour vous, il ne cherche pas forcément une position gouvernementale ?
Je ne crois pas qu'il cherche à être ministre, proprement dit, c'est-à-dire secrétaire, peut-être. Parce que sinon, il est obligé d'abandonner tous ses intérêts dans ses entreprises à cause des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir. Et donc, il a tout à perdre. Un rôle de ministre, c'est beaucoup plus réducteur que le rôle de patron de ces entreprises-là. Donc, je pense plutôt qu'il veut essayer de contribuer à la déréglementation, la dérégulation, en prenant peut-être la tête d'une commission, simplement, qui conseillerait Trump sur ce sujet-là.
Donc un audit, il veut faire un audit.
Faire un audit,
c'est ça.
Il est allé dans ce sens-là aussi, il a parlé d'audit. Parce qu'être ministre, je crois que franchement, il n'aurait rien à gagner.
Oui.
Charles-Olivier.
Je suis entièrement d'accord, être membre du cabinet. Les membres du cabinet, il faut qu'ils soient confirmés. Donc il y a des chances qu'ils soient confirmés par le Sénat, puisque le Sénat est totalement acquis aux républicains actuellement. Mais en effet, il y a une notion de conflit d'intérêts qui fait qu'il y a de très très fortes chances qu'il ne puisse pas avoir une telle fonction.
Enfin,
donc
pardon,
se faire
confier
une mission en dehors du gouvernement, mais être membre du gouvernement, non.
Enfin, il a un objectif.
Enfin, du cabinet.
Il a dit lui-même qu'il voulait couper 2000 milliards de dollars du budget américain, Romain Badoir. Donc quand même pour quelqu'un qui ne veut pas être ministre, il a quand même quelques échéances assez précises.
Ah oui, mais Musk, c'est un libertarien, autant sur les questions économiques que politiques. Son projet politique, c'est la liberté absolue dans tous les domaines et toutes les frontières, les obstacles qui peuvent se mettre en travers de cette liberté doivent être anéantis, selon lui. Et donc ça, il le promeut à la fois dans ses prises de position politiques et dans ses prises de position économiques.
Christine,
les 2000 milliards, milliards, il veut couper dans les agences gouvernementales qui font les réglementations aujourd'hui, que ce soit la concurrence, que ce soit celle sur la sécurité routière, il veut couper dans ces agences-là de façon à ce qu'il y ait davantage de liberté, et ça fera des économies en même temps.
Oui. Mais on a l'impression, Gérard Olivier, quand même, qu'on a entendu plus parler d'Elon Musk que du futur vice-président Jed Evans, aux côtés de Donald Trump, comme si il allait être le vrai vice-président et peut-être même le dauphin de Trump.
C'est une très bonne remarque. Visuellement, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que J.D. Vance ne faisait pas campagne là où Trump faisait campagne. Mmh. Chacun faisait campagne séparément, alors que dans les derniers mois, Musk est apparu systématiquement avec Trump. Oui. Et les deux ont une énergie qui fonctionne très bien, c'était un binôme qui fonctionnait. Et puis, dans la démarche de Trump, qui quand même, parce qu'il s'agissait de se faire élire, Musk était un moyen d'accéder à un électorat jeune. Et en même temps, un électorat qui était branché sur la nouvelle technologie et un électorat qui était branché, je dirais, un petit peu sur l'avenir. Mmh. Donc, il touchait plusieurs de ses cibles. Le vote masculin, le vote jeune, était très, très important dans la stratégie de Donald Trump. Et Musk était un des moyens d'y parvenir.
Et peut-être aussi que J.D. Vance a posé problème avec des déclarations absolument dingues, outrancières et sulfureuses, Romain Badoire, à un moment donné.
Oui, alors, surtout ce qu'a fait Musk, au-delà de donner beaucoup d'argent et de donner de sa personne pendant la campagne, c'est... Il a mis sa plateforme de réseau social, X, l'ancien Twitter, au service du candidat, en assurant la promotion de discours conservateurs, parfois complotistes, lui-même tenant régulièrement des propos complotistes qui sont extrêmement relayés. Il a été accusé d'avoir truqué les algorithmes de Twitter, justement, pour promouvoir certains de ses messages. Donc, c'est là-dessus qu'il a vraiment joué un rôle important.
Eh bien, justement, on va en parler avec vous, Anna, donc. Oui, ex-Twitter, qui appartient donc à Elon Musk.
Oui, et qui est en fait une tribune pour diffuser son idéologie. X, c'est plus de 300 millions d'abonnés dans le monde et donc la possibilité pour Elon Musk de partager massivement ses idées. Par exemple, pendant la campagne présidentielle, il a régulièrement incité ses 200 000 abonnés à voter pour Trump. Il est d'ailleurs accusé d'avoir, vous l'avez dit, manipulé l'algorithme pour pousser ses propres tweets. C'est quand même 3 000 rien qu'au mois d'octobre, mais aussi ceux du candidat républicain. Et on lui reproche aussi d'avoir partagé donc des théories complotistes et des fake news, notamment sur l'immigration, comme celle accusant les démocrates de faire venir des migrants illégaux dans les États-clés pour voter en faveur de Kamala Harris. Mais de manière plus large, avec X, il espère combattre le virus woke. C'est aussi lui qui décide qui est influent ou non sur le réseau grâce à l'attribution du fameux badge bleu qu'on voit ici. Il a d'ailleurs réhabilité plusieurs profils d'extrême droite ces deux dernières années, comme l'influenceur d'extrême droite britannique Tommy Robinson en 2023, qui est connu pour organiser des actions violentes anti-immigration. Donc son influence à Musk, elle dépasse même les frontières des États-Unis. Cet été, il a été accusé d'amplifier les émeutes de Southampton au Royaume-Uni, après avoir qualifié la situation de guerre civile dans un tweet. Et le gouvernement britannique avait dû réagir et avait jugé sa position de complètement irresponsable. Romain Badoire, est-ce que pour ce nouveau mandat, Musk va être celui qui murmure à l'oreille de Trump ? Est-ce qu'il va pouvoir agir sur la politique américaine ?
Oh, il jouera peut-être le rôle de conseiller comme Steve Bannon l'était lors de son premier mandat. Par rapport à ce que vous disiez, il y a un point qui est important, c'est au-delà de son rôle dans la campagne, Musk avait préparé le terrain justement avec Twitter en renvoyant la plupart des modérateurs et donc en augmentant la part de discours haineux, agressifs et de désinformation sur la plateforme. Et il a aussi rapatrié sur Twitter beaucoup de communautés d'extrême droite qui en avaient été sorties avec le phénomène qu'on a qualifié de déplateformisation, c'est-à-dire que suite à toutes les controverses sur les discours de haine, ces mouvements d'extrême droite avaient été supprimés, renvoyés des grandes plateformes publiques, commerciales, et s'étaient rapatriés vers des plus petites applications, plus petites plateformes, et Elon Musk les a invités à revenir sur la plateforme, ce qui a créé une forme de brutalisation, quelque part, du débat sur le réseau social.
Mais Gérald Olivier, est-ce que vous pensez qu'il a la vocation de construire un nouveau monde qui dépasse même Trump, en fait ?
Je ne connais pas toute son ambition, à mon avis.
Vous n'êtes pas dans la tête d'Elon Musk.
Je voudrais juste, moi, revenir sur cette notion qui est très importante quand on emploie le mot d'extrême droite. Oui. C'est un mot qui est quand même chargé. Oui. Et il y a certainement des personnages et des groupes qu'il importe de surveiller, notamment lorsqu'ils incitent à certaines actions violentes.
Suprémacistes,
maintenant,
par exemple.
Il est très facile aussi, malheureusement, dans le discours aujourd'hui, en France et aux États-Unis, de décrédibiliser quelqu'un en le qualifiant d'extrême droite, même si les idées sont simplement conservatrices et ne méritent pas ce type de qualificatif. Et c'est à cela que faisait allusion Elon Musk. Je rappelle quand même que pendant la campagne de 2020, parce que c'est là où tout se joue par rapport à son rachat de Twitter, vous avez des dizaines de milliers de comptes qui ont été supprimés parce qu'ils étaient accusés de faire de la désinformation, alors qu'en fait, c'est à l'époque le gouvernement qui faisait de la désinformation en prétendant qu'un certain ordinateur appartenant au fils du président était une campagne russe.
Mais
ce n'était pas le cas. Donc, non, oui, ce que je veux dire simplement,
Vous nuancez, mais tout de même, son anti-wokisme, Christine Kerdelan, et anti-immigration, ça fait d'un homme, de lui un homme encore plus conservateur que Trump. C'est la question qu'on peut se poser, tout de même.
Oui, oui, oui. Il est viriliste, nataliste. Enfin, il a 12 enfants faits, soit par triplé ou
il
par.
Il est obsédé par la démographie.
Il est obsédé par la démographie.
Par les armes à feu.
Par les armes à feu également. Accès. Et d'ailleurs, il a, au-delà des 120 millions qu'il a investis dans la campagne de Trump et dont il attend maintenant un retour, il a surtout aidé dans la désinformation et en particulier en mettant en place, enfin en finançant une ONG politique qui a mis en place un programme qui s'appelle Progress 2025, ou Progress 2028, pardon, par analogie avec le projet 2025 des Républicains. Et ce faux Progress 2028 parlait du programme de Kamala Harris en exagérant légèrement tout ce qu'elle avait proposé de façon à irriter les gens. Par exemple, en disant on va racheter tous les fusils d'assaut aux gens qui souhaiteront parce qu'on veut que les écoles soient surveillées. On va donner de la sécurité sociale à tous les immigrants illégaux, etc. Mais c'était juste un cran de plus que ce qu'elle proposait. Et avec cette désinformation donc soutenue par Musk et Surix et ailleurs, je suis sûre qu'il a fait venir vers les Républicains pas mal de votes qui hésitaient encore.
Alors on va s'interroger sur l'influence non plus économique mais politique, idéologique à l'échelle planétaire de ces milliardaires, de ces oligarques. Passe-t-il du politique à l'économique? Avec notre archive, rencontre entre Elon Musk et Emmanuel Macron, c'est le 15 mai 2023 lors du sommet Choose France où il s'agissait de draguer des investisseurs étrangers pour qu'ils investissent en France. Regardez.
Il est connu pour ses nombreuses polémiques, en particulier depuis son rachat de Twitter. Mais Elon Musk, c'est avant tout le deuxième homme le plus riche de la planète. Une fortune estimée à 180 milliards de dollars, qui a de quoi séduire, notamment ici en France. Emmanuel Macron voit en lui un investisseur potentiel qui pourrait mettre sur la table d'importantes sommes d'argent. Et c'est justement l'enjeu du sommet Choose France organisé à Versailles, attirer les investisseurs étrangers.
Et Romain Badoir, et là on voit une sorte de nouveau diplomate, de futur émissaire même de Donald Trump. Il connaît tous les grands de ce monde.
Oui, mais il est connu aussi pour ses conflits avec la Commission européenne, puisque l'Union européenne, ces dernières années, a mis en place des plans de régulation, notamment de l'économie des réseaux sociaux.
On dit même qu'il a eu la peau de Thierry Breton, le commissaire français.
Oui, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, Thierry Breton était effectivement très opposé à Musk et exigeait que Musk respecte les règles européennes s'il voulait que Twitter et X puissent être hébergés sur le continent européen, tout simplement. Là, la nouvelle commission qui a été mise en place est réputée un peu moins pro-régulation, ça va sûrement là aussi servir ses affaires.
Gérald Olivier, le Wall Street Journal révèle des discussions régulières avec Vladimir Poutine et une utilisation des satellites Starlink, d'abord pour l'Ukraine au début de la guerre et puis pour faire plaisir, semble-t-il, à l'autocrate russe récemment.
Ça, je ne sais pas si c'est pour lui faire plaisir, mais ce qui est évident, c'est qu'il est courtisé, parce que d'abord, il est très riche. Ah ben oui, il est courtisé par tout le monde. Il est courtisé par Macron, il est courtisé par la Chine, il est courtisé par Poutine. Il a de très bons rapports avec le nouveau président argentin, M. Milei. Il est courtisé par l'Inde, parce qu'il est dans
par des... Par tous les hommes forts, en quelque sorte. Vous dépeignez tous les hommes forts.
Ce sont des dirigeants de pays importants. Leurs pays sont aussi puissants que eux. Mais lui est dans des zones technologiques qui sont stratégiques aussi, et donc avoir... Musk avec soi, c'est inévitablement important. Là, on l'a vu en France, il était courtisé par Macron, plus qu'autre chose. Lui vient vendre des voitures, mais Macron, lui, il veut que quelqu'un vienne investir pour des emplois, pour des recettes économiques également.
Christine Kerdelan, il peut orienter la diplomatie américaine dans le sens de ses intérêts. Il a quand même dit que Taïwan était partie intégrante de la Chine, par exemple, on sait tous les avantages qu'il peut y avoir, les intérêts qu'il peut avoir en Chine.
Effectivement, comme il vend 600 000 voitures sur le continent chinois, des voitures qu'il fabrique sur place, il fait plaisir à Xi Jinping en disant que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Et ça a été la même chose avec la Russie, en fait. Il s'est pris pour un diplomate. Effectivement, il avait déployé ses satellites au-dessus de l'Ukraine de façon à aider l'armée ukrainienne, mais quand il a eu un coup de fil de Vladimir Poutine lui demandant d'enlever la couverture au-dessus de la Crimée parce que l'Ukraine allait envoyer des drones sur Sébastopol pour abîmer les bateaux russes. Eh bien, Poutine disant d'ailleurs, si ce sera un Pearl Harbor et ensuite ce sera, je tirerai nucléaire si
le font. Et Musk a dit, je ne veux pas être responsable d'un nouvel Hiroshima, c'est ça ?
Exactement.
Oui. Donc il se positionne comme un diplomate.
Sans demander l'avis du Pentagone, sans demander l'avis du gouvernement américain.
Mais Romain Bader, c'est l'un de ses objectifs en soutenant Trump, d'influencer ses prises de position sur l'international. Et si jamais il obtient pas gain de cause de retirer peut-être son soutien.
Je pense que ses intérêts sont avant tout économiques. Avoir accès à des marchés comme celui de la Chine, c'est évidemment très important pour ses affaires. Donc pour promouvoir ses affaires, il passe par la case diplomatie, si on peut dire.
Mais comment il peut évoluer ce couple Trump-Musk, justement, selon vous ? Est-ce qu'il y en a un qui va faire de l'ombre à l'autre, en l'occurrence Musk peut-être pour Trump ? Est-ce que Trump peut bien le vivre, cela ?
Non, si c'était le cas, ça ne se passerait pas comme ça. Ouais. Et justement, il faut comprendre le rapport de force. Oui. Le président, c'est Trump. Dans le système américain, le responsable de la politique étrangère, c'est le président. Et il a une sorte de monopole sur la question. Donc il ne va pas laisser la politique étrangère des États-Unis à Elon Musk. Et Elon Musk se pliera à la volonté de Trump, ou bien il ira voir ailleurs, et les deux se sépareront. Donc il y a quand même des risques d'achoppement, on va dire, entre les deux dans les années qui vont à venir. Trump sera très heureux d'avoir Musk à côté de lui tant que Musk sera à son service d'une certaine façon.
Sera loyal. Et quant aux ambitions politiques d'Elon Musk, on sait que né en Afrique du Sud, il ne peut pas avoir une ambition présidentielle en ce qui concerne les États-Unis.
Exactement. Je pense qu'il peut être peut-être un vice-président de l'ombre, mais il ne sera jamais président. Donc ses ambitions, elles s'arrêteront forcément aux portes de la Maison-Blanche.
Vous êtes d'accord avec ça, Romain Badoir ? Est-ce que Trump a sous-estimé l'homme ou pas, et sur ses ambitions ou pas ?
Je ne suis pas sûr qu'il ait une telle ambition politique. Ouais. En tant que libertarien, il est profondément anti-étatique. Ouais. Donc je ne suis pas sûr qu'il cherche à gouverner. Il cherche à faire en sorte que le gouvernement l'embête le moins possible. C'est plus ça son idée.
Ouais. Mais il espère manipuler Trump. Maintenant, Trump a joué le jeu pendant la campagne. Est-ce qu'il va vraiment libéraliser, enfin être plus favorable aux voitures électriques, déréguler les secteurs qui intéressent.
Quand vous dites ça reste à voir, on pense immédiatement transition écologique et transition énergétique. La COP29 va s'ouvrir bientôt. On sait que Trump est un climato-sceptique. Est-ce qu'avec la présence autour de lui d'Elon Musk, ça va un peu aggraver la situation ou ça peut modifier la vision de Donald Trump ?
C'est tout le paradoxe. Mm-hmm. Trump n'a jamais été un fan des voitures électriques. Aux États-Unis, les gens qui achètent des Tesla, ils votent démocrate, ils ne votent pas républicain en général. Donc là, il y a un vrai paradoxe entre les deux, et on verra jusqu'à quel point qui utilise qui. Mm-hmm. Mais pour en revenir sur je ne connais pas les ambitions de Musk, mais il a un parcours où il a quand même affronté le gouvernement en Californie, sur le plan de la régulation, deux, il y a un de ses enfants qui a fait une transition dans le genre, et il estime avoir été victime de la bureaucratie parce qu'il s'en est aperçu quand c'était trop tard. Donc il a quand même des grievances vis-à-vis d'un certain État et d'une certaine politique, et je pense que ça explique en partie son rattachement à Trump, et quand on lui demande en plus d'aller couper dans la bureaucratie, il est très content de venir le faire.
Merci à tous les trois d'avoir exploré la question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.